Mes frères et sœurs, j'ose croire que vous allez bien et que ce message vous trouvera en bonne santé. Que l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Je voudrais d'abord remercier les frères et sœurs qui me font des retours, même ceux qui ne me font pas des retours aussi, je les remercie infiniment pour le temps que vous mettez à écouter mes commentaires. J'espère que ça vous fait du bien, que vous apprenez des choses à travers donc tout ce que nous faisons via le site campagnepouryeshua.com. Aujourd'hui, nous allons faire le commentaire du chapitre 25 du premier livre de Samuel, plus qu'un chapitre, le chapitre 26, et nous terminerons la première partie. Et après, nous attaquerons le second livre de Samuel. D'ores et déjà, je vous remercie encore. Vraiment, que le nom de l'Éternel soit béni pour la grâce qu'il nous a donnée de pouvoir faire ces commentaires-là, Seigneur. Et aussi, le temps que vous mettez, que vous prenez sur vous pour écouter ces messages et des fois me faire des retours. C'est comme ça que nous devons être dans l'Église, c'est-à-dire nous fortifier mutuellement parce que Yeshua est à la porte. Yeshua, c'est Jésus, bien sûr. Yeshua, le Messie, HaMashiach, Jésus le Messie ou Jésus le Christ est à la porte. Et plus que jamais, mes frères et sœurs, nous devons être solidaires. Nous devons nous fortifier les uns les autres. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ou bien de croyants ne lisent plus, n'écoutent plus les messages. Ils préfèrent donc des vidéos ou des messages courts ou bien ils rejettent l'enseignement. Ce qu'ils veulent, c'est des miracles qu'ils désirent, des miracles. Mais le plus grand des miracles, c'est d'être en communion avec le Seigneur Jésus. C'est de le connaître tel qu'il est. C'est ce qu'il a dit, que la vie éternelle, quand Yeshua parlait à ses compatriotes, c'est de connaître l'éternel Elohim et celui qu'il a envoyé, c'est-à-dire Yeshua le Messie. Ainsi, mes frères et sœurs, je prie la paix. Je prie pour vous, pour vous tous qui m'écoutez, que nous tous, nous avançons de jour en jour dans la vraie connaissance, épignosis, comme disait Paul l'apôtre, que nous avançons tous dans la connaissance du Messie, de notre Sauveur et de notre Seigneur Yeshua. Si vous avez des remarques, des questions, soit vous posez les questions sur le site, ou bien vous me l'envoyez directement via le mail. Il y a le mail sur le site. Il y a deux mails. Vous pouvez me l'envoyer. D'accord? Les questions, ainsi de suite. Ainsi, nous pouvons discuter et puis nous pouvons nous fortifier mutuellement jusqu'à ce que la trompette sonne ou bien jusqu'à ce que nous fermons les yeux donc sur ce monde et nous l'ouvrons sur le monde à venir. Merci. Je remercie également le frère, bon, je ne vais pas appeler son nom, qui a pris son temps et qui est en train de réaménager, qui a fait un travail gigantesque sur le site Yeshua, campagnepouryeshua.com. Vraiment, ce travail est immense et c'est une réponse à ma prière, à mes prières et aux prières des uns et des autres. Que l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Donc, avant de commencer ce commentaire, donc, permettez-moi de prier. Père, je te loue, je te glorifie et je te remercie infiniment. Lorsque il s'est agi de la nomination des diacres, les apôtres ont dit que eux, ils vont continuer, quoi, à s'exercer à la prière et au ministère de la parole. Père, je voudrais aujourd'hui m'exercer au ministère de la parole, parler de ta part, commenter ta parole. Ainsi, je te prie, je te demande de m'accorder la grâce de disposer droitement de ta parole, avec hardiesse, avec zèle, avec précision, avec intelligence et avec sagesse, afin que cette parole, ce commentaire, ce qui sortira de moi, puisse apporter des éclaircissements, des réponses, puisse fortifier, édifier, encourager et non semer la confusion. Et dans ce que je vais dire, Père, permets que ton Fils soit glorifié et que ton nom, toi Elohim, soit exalté. Ô Éternel notre Dieu, là, souviens-toi des frères et sœurs qui ont des difficultés, qui ont des problèmes. Tu les connais, Seigneur. Mais je prie la paix, si c'est la guérison, si c'est une résolution, si c'est une porte qui doit s'ouvrir, Seigneur, si c'est un exaucement, Seigneur, je prie la paix que tu exauces ces frères et sœurs et que tu enlèves l'obstacle que l'ennemi a mis sur leur route ou que tu les sortes de l'épreuve par lesquelles ils ou elles passent, Seigneur éternel, notre Dieu. À toi seul la gloire, dans le nom de Yeshua. Père, maintenant, donne la puissance à ta parole, afin que lorsqu'elle sorte, qu'elle accomplisse ce pourquoi tu l'as envoyé dans nos vies. Qu'il en soit ainsi, Père. Le livre de Samuel est un livre prophétique. Donc, ce que nous allons dire aujourd'hui, ce qui est écrit il y a des siècles, est encore valable aujourd'hui, ou bien il y a des aspects qui nous concernent aujourd'hui. C'est pourquoi, Père, nous prions que tu ouvres les yeux de nos cœurs, que tu ouvres notre intelligence, tu nous donnes la sagesse, afin que nous puissions comprendre cela et là, surtout la mettre en pratique. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Yeshua. Amen. Amen, amen. Donc, nous sommes sur le premier livre de Samuel, toujours, chapitre 25. Et nous allons commenter du verset 1 au verset, bon, je vais voir, verset 12. Oui, au verset 12, hein, voilà cependant. Verset 12. Oui, verset 12, c'est bon. Verset 12. Ou bien, oui. Le verset 11 plutôt, va. On va faire comme ça, le verset 11. Oui, voilà, comme ça, c'est bon. Voilà. Je ne choisis jamais d'avance, hein, mais je pense que, oui, c'est ce que j'avais dans ma tête jusqu'au verset 11. Mais c'est parce que la division des fois des versets dans la version hébraïque et dans la version Louis II et autres n'est pas pareille. Donc, jusqu'au verset 11. Voilà, on va s'arrêter là et on va commenter. Donc, je lis le premier verset. Samuel étant mort, tous les Israélites s'assemblèrent pour mener son deuil et l'ensevelir dans sa demeure à Rama. David se mit en route et se dirigea vers le désert de Paran. Paran, c'est Paran qu'on dit, désert de Paran. Voilà, bon. Donc, voilà ce que ce premier verset nous dit. Il faut dire que ce chapitre 25 est un chapitre charnière, puisque ça clôt une histoire, l'histoire de Samuel qui a été juge, sacrificateur et prophète en Israël. C'est lui qui était le... comment on dit ? Qui a succédé au juge, vous voyez, à Samson, qui a succédé donc au juge, hein, au chef militaire, au chef de guerre, il a succédé à eux. Donc, c'est lui qui a fait la jonction entre les chefs, les juges et la royauté. Hein. Il a fait la jonction entre les deux, vous voyez. Donc, c'est ça. Et ce chapitre 25, donc, marque donc la fin de cette histoire et le début donc d'une autre, c'est-à-dire l'après Samuel. Donc la Bible nous informe que Samuel étant mort, tous les Israélites s'assemblaient. Samuel, la mort de Samuel. Voilà, la mort de Samuel. D'abord, la mort, c'est vraiment quelque chose que nous avons hérité de nos premiers parents, en tout cas de ce que nous appelons Adam et Ève, qui ont péché. Et la Bible nous dit qu'après ce péché, la mort s'est étendue à tout le monde, parce que c'est la sanction que l'Éternel Dieu donc a prévu selon le jugement de Dieu. Il a averti Adam, il a averti au début, lorsqu'il lui donnait les consignes dans le jardin d'Éden, il lui a averti que le jour où il désobéira à Elohim, il va perdre non seulement la communion, il mourra. C'est-à-dire que la communion avec l'Éternel, avec Elohim, mais également la mort physique, il retournera à la poussière. Puisque poussière, nous sommes. Et c'est ce que nous confirme donc le livre de Genèse 2, le chapitre 7. On nous dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Quand on lit ça en hébreu, donc la poussière donc, de la terre, ça c'est l'enveloppe corporelle de l'être humain, puisque l'Éternel donc a façonné donc l'être humain. Donc Adam, c'est l'homme qu'on a dit, c'est être humain, Ha Adam. Donc a façonné dans la poussière de la terre, donc l'être était inanimé, comme mort, il n'y avait pas de vie en lui. Il souffla dans ses narines, on dit, le souffle là qu'il a soufflé, un souffle de vie, c'est Neshama, voilà. C'est pas la ruah. La ruah, on l'a vu au début, c'était l'Esprit de Dieu. Comment cet esprit, ce souffle vient de Dieu, donc nous pouvons dire que c'est une partie, ou bien c'est peut-être, on peut supposer que la Neshama est une partie de la ruah, en tout cas de l'esprit. Souffla, c'est cet esprit vient de Dieu, l'esprit qui anime, qui a animé, qui a donné la vie, puisque l'Éternel Dieu est la vie. Il a la vie, il a l'existence, il a la vie en lui-même, voilà. Et c'est ce que Yeshua également dit, qu'il a la vie en lui-même. Personne ne peut lui ôter la vie, il la donne et il la reprend. Voilà, donc c'est ça. Donc, Neshama, il souffla, mais quand on le lit en hébreu, donc c'est un souffle des vies. Un souffle des vies, d'accord? Donc, c'est comme aussi l'âme, en tout cas, fait partie, mais on peut dire que le contact de ce souffle, de ce neshama de vie, neshama haïm, de ce, voilà, au contact du corps fait de poussière, a donné l'âme qui fait l'intermédiaire ou bien la liaison entre l'esprit de l'homme et son corps. Devint un être vivant, donc Nefesh Haïm. Nefesh Haïm. Donc Nefesh, donc c'est l'âme. Il y a le Neshama, qui est l'esprit de l'homme, et Nefesh, qui est l'âme. Voilà, l'âme. Voilà. Et la Dama, le corps. Voilà. Le corps, fait de la poussière. Donc, c'est ça. Donc, quand quelqu'un meurt, comment? La Bible nous le dit, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Mais l'âme, si nous lisons bien Luc 16, avec avec l'homme riche et Lazare, nous voyons que ce monsieur, on a enterré son corps, son esprit est retourné à Dieu. Mais son âme, non, son âme est allée dans un lieu appelé Sheol. Voilà. Et dans ce Sheol, il y a deux compartiments. Il y a une partie réservée pour les mauvais et les méchants, ceux qui n'ont pas reçu, ceux qui n'ont pas obéi à l'Éternel Dieu, n'ont pas reçu Jésus, et le sein d'Abraham. Voilà, les morts étaient séparés, leur âme. et nous voyons que l'âme était, en tout cas, consciente de tout ce qu'elle avait fait, de tout ce que cet homme avait fait sur, donc, la terre des vivants. Voilà, d'accord? Donc, l'âme va dans ce lieu, Sheol, ou bien un lieu de repos, en attendant, donc, le jugement, le jugement. Bon, dans la Bible aussi, des fois, l'esprit est appelé roi, des fois. Voilà, donc ce qui fait dire que nous ne connaissons pas tout, hein. On ne peut pas tout connaître, parce que la Bible est une révélation. On procède par révélation, donc Dieu procède par révélation. Certains disent que voilà, que il y a un stade d'esprit à avoir. Et lorsque quelqu'un naît de nouveau, la Bible nous dit que nous recevons les arts de l'esprit. Et puis après vient le baptême de l'esprit où Dieu met son roi, HaKodesh, en nous pour vivifier encore notre esprit. Parce que le péché a fait que notre esprit a été rabougri et qu'il n'y avait plus de communication entre l'esprit de l'homme et son corps à travers son âme. Puisque le péché empêche cela. Et que c'est le corps, plutôt les sens qui dirigeaient plutôt l'âme de l'homme, et l'homme naturel. Voilà, de l'homme naturel. Alors que lorsque nous devenons croyants, nous sommes nés de nouveau. Donc le sens s'inverse, c'est notre esprit est vivifié par l'esprit de l'éternel Dieu, et cet esprit contrôle maintenant, aide notre esprit à se développer et maintenant à contrôler donc notre âme et les besoins. L'orientation de l'être ne vient plus des sens, mais vient de l'esprit de Dieu qui est dans le chrétien. Donc quand quelqu'un meurt, donc on nous dit, l'esprit retourne à l'éternel Dieu. Et puis l'âme va dans ce lieu-là en attendant son jugement. Nous pouvons voir ça dans Ecclésiaste 12. Hein, voilà, Ecclésiaste 12. Je vais lire. Nous connaissons tous ces versets. Et voilà le verset 7. Avant que la poussière retourne à la terre, on parle de la mort, comme elle y était. Voilà, comme elle y était. Vous voyez, comme elle y était. L'esprit retourne, voilà, comme il était. Et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vous voyez, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Voilà, donc c'est clair et c'est net. D'accord? Voilà, c'est ça, la mort. Donc, nous avons tous peur de la mort, hein, de ce passage, de cette transition. Mais la mort est quand même nécessaire parce que, comme dit Yeshua l'a dit, si le grain de blé ne meurt, il ne peut pas donner beaucoup de fruits. Nous devons mourir à nous-mêmes, mais un jour, si nous mourons dans ce monde définitivement, et nous allons ressusciter en étant une nouvelle créature, puisque tous, comme la Bible dit, nous serons tous transformés. Et les morts et les vivants seront transformés lorsque la trompette donc sonnera. Nous aurons un autre corps. Voilà, donc c'est ça. Donc Samuel étant mort, Samuel est décédé. Et la Bible nous dit aussi qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et vous avez vu que le mot mourir s'écrit avec un seul R. Hein. Parce qu'on ne meurt qu'une seule fois. Alors que le mot nourriture se crie avec deux R, parce qu'on se nourrit, plusieurs fois. Hein? On se nourrit plusieurs fois, mais on meurt plutôt qu'une seule fois. Hein? Il n'y a pas de réincarnation, comme le disent certaines religions. Même dans les milieux juifs, hein, ils le disent. Il y a certains rabbins qui ont cette théorie de la réincarnation, alors que Yeshua dit, il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Yeshua est la vérité, c'est lui que nous devons croire. C'est lui qui est venu révéler qui est la parole de l'éternel Dieu. Cette parole s'est faite chair. Donc, il a dit qu'il est la vérité même. Il est la vérité. C'est lui qui nous devons croire. Il est venu nous le dire et non les théories des hommes. Voilà. Donc, si la réincarnation existe avec un cycle sans fin, quoi. Donc, c'est pas vrai du tout. C'est du n'importe quoi. Peut-être que ça satisfait les gens parce qu'ils disent, ah oui, si je fais de mauvaises choses, peut-être je vais réincarner en un cochon, un arbre. C'est une absurdité totale. Donc, Samuel étant mort, il a été enterré dignement et le peuple a mené deuil sur lui. Deuil sur lui. Et on nous dit que cette mort de Samuel donc, a déclenché donc, le mouvement de David. Vous voyez, je vous explique. David se mit en route et se dirigea vers le désert de Paran. Samuel habitait à Rama, c'est vers le Enguedi là-bas. Si vous voyez la géographie, la carte, c'est en dessous de Jérusalem, à côté de la mer morte. Donc David tournait dans ce désert d'Enguedi. D'accord? Je pense que c'est parce que David ne voulait pas s'éloigner de là-bas pour protéger Samuel, parce que Samuel avait peur que Shaoul ne vienne le tuer. Il avait déjà massacré les prêtres et les sacrificateurs de Nob, a massacré même les enfants. Il a tué tout le monde, sauf Achitoub qui a pu échapper à ce massacre. Donc David avait pris conscience de cela. C'est pourquoi il ne s'était pas éloigné de la région de Samuel pour pouvoir intervenir à temps et ne pas être surpris. Parce que il s'est beaucoup culpabilisé, hein, de ce que il n'a pas été vigilant avec les prêtres de Nob avec Ahimelech, oui, c'est ça, et que il a laissé faire. À cause de son absence, les prêtres se sont fait massacrer. Et je pense que cette culpabilité l'a amené donc à ne pas quitter la région pour intervenir à temps lorsque la vie de Samuel serait en danger. La Bible nous dit, celui donc qui sait faire ce qui est juste ou excellent et qui ne le fait pas commet un péché. Je relis encore. Celui donc qui sait faire ce qui est excellent, ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Voilà. Il était bien pour David de rester à côté, de ne pas être très éloigné de Samuel. Ça rassure également Samuel et ça rassure également David. Mon frère, ma sœur, aussi, nous passons beaucoup notre temps également hein, à côtoyer des frères et sœurs. Si il existe quelque chose dans la vie de ce frère, ou bien un besoin particulier que nous le savons, ou bien que ce frère l'a exprimé, et que nous ne lui apportons pas l'aide nécessaire, ou bien que nous venons pas à son secours, mais nous commettons un péché par omission, ou bien un péché délibéré. Un péché délibéré. Et c'est ce que Jacques a dit. Parce qu'il dit, OK, un frère va venir chez toi, va dire, OK, j'ai faim, j'ai ceci, j'ai pas mangé, et toi tu vas lui dire, vas-y, va prier, Dieu te bénisse, comme disent beaucoup, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont friands de bénédictions. Il y a aujourd'hui un consumérisme de bénédictions aussi chez les chrétiens. Il veut des bénédictions, bénédictions, bénédictions. C'est comme des sangsues. La Bible nous dit que la sangsue a trois filles. Donne, 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 donne. Voilà, donne, donne, donne. C'est ça maintenant. Les gens sont friands de cela. Quand tu parles du péché dans une assemblée, tout ça, tu n'entendras pas. Alléluia. Hein? Ou bien tu n'entendras pas les gens se repentir, crier, frapper la poitrine. Hein? Mais quand tu dis Dieu te bénisse, ah, tout le monde crie Alléluia. Oh, c'est comme ça aujourd'hui. Les croyants sont devenus friands de bénédictions, friands de richesses, friands de tout, d'enrichissement. Hein? C'est ça. Donc, si nous voyons un de nos frères dans la misère, nous voyons dans un besoin, et que ce frère, Dieu lui a permis de venir à nous, et que nous le savons, mais que nous n'agissons pas, même chez notre prochain, nous commettons un péché. Et c'est pour cela qu'ici, David ne s'était pas éloigné de cette région et qu'à la mort de Samuel, donc, David s'en était éloigné pour descendre dans le désert de Paran, qui est le désert de Paran se trouve à côté de la mer Rouge, comme on dit, à côté de l'Arabie, là-bas. Désert de Paran, c'est un désert qui est plus vaste. Donc, Shaoul aura peu de chances d'attraper David. Alors que là-haut, là-bas, dans le désert d'Engedi et autres, là, c'est une région très petite où les mouvements de troupes se font voir rapidement et aisément. Alors que dans le désert de Paran, non, pas du tout. Donc, voilà, ça c'est clair. Désert de Paran. Paran veut dire quoi? Lieu de caverne. Lieu de caverne. Mais ce mot vient de Pa'ar, en hébreu, qui veut dire glorifier, embellir, orner. C'est de ce lieu que David va prendre son ascension. Voilà, c'est de ce lieu, voilà, qui va prendre son ascension, ce lieu qui vient d'un mot qui veut dire glorifier, embellir, orner, glorifier, embellir, se glorifier, obtenir la gloire pour soi, être glorifié et aussi aller parmi les branches, c'est-à-dire au sommet, en somme. Donc, c'est de cette région que David va prendre son ascension dans le désert de Paran. Voilà. Or, dans la ville de Maon, qui se trouve donc près de Jérusalem, près du mont Carmel, Maon, il y avait, le verset nous dit qu'il y avait un habitant, un homme, un gibor, un homme fort, Méode, un homme gibor, un homme, c'est-à-dire qu'ils ont dit ish, c'est-à-dire on a répété le mot homme deux fois. Donc c'est un homme, un vrai quoi, qui est réputé, puisqu'on a dit ish, un grand, gadol, grand, on l'a traduit par riche, bon, un grand homme, voilà, c'est quelqu'un de renommé, de réputé, hein, quelqu'un de fort riche, qui avait beaucoup de biens. 3000 brebis et 1000 chèvres. Et sur le mont Carmel, donc, il faisait donc la tonte de ses brebis. Et on nous donne le nom de ce monsieur, on le prenait, Naval. Naval qui veut dire insensé, rustre, ou bien rustre, insensé, sot. Nabal, un homme, un bouffon, voilà, qui a peu d'intelligence, qui est sot, qui n'est pas, qui est insensé, qui est russe, qui est méchant, qui est caractériel, qui est colérique. Il a mauvais caractère, ce monsieur. Et on l'a d'emblée opposé à sa femme, Abigail. Abigail veut dire « Mon père est joie » ou bien « Père de l'enthousiasme ». Ah oui, hein, l'Éternel Dieu a bien fait les choses. Il a donné à un homme insensé, à un homme ruste, à un homme sot, à un homme colérique, à un homme irritable, ordurier, lui a donné une bonne femme qui a la joie, qui peut apporter la joie dans sa vie, qui peut permettre à cet homme-là de retrouver le sens, de devenir sensé, c'est ça que l'Éternel lui a donné. L'Éternel, sa femme est une bénédiction pour lui. La Bible nous dit également, dans 1 Corinthiens, c'est dans Paul l'apôtre, que la femme, par son comportement sainte, peut amener un mari incroyant, un mari violent, à la vérité, à la conversion. Et c'est ce que Abigail signifie. Voilà. Et elle devait amener tempérer le caractère rustre, le caractère rigoureux ou rigueux, ou brut de décoiffage, ou brut de pomme, hein, brut de pomme, hein, devait adoucir le caractère de Nabal. Vous voyez comment l'Éternel Dieu fait les choses. Le mari ou l'épouse que l'Éternel Dieu a placée auprès de toi est ton vis-à-vis, mais en même temps, c'est ton contraire. Si on voit le mot en hébreu qui veut dire que l'Éternel a placé une femme semblable ou bien son vis-à-vis à lui, ce mot veut dire en même temps son contraire. Le contraire, pour et contre, au fait, pour et contre. La femme est pour et contre l'homme, ou bien le masculin, voilà, et pour contre l'homme, pour que l'homme ne fait pas ce qu'il veut, sinon l'homme serait un dictateur, un vrai dictateur. Voilà, donc ben, la femme est là pour tempérer les ardeurs, pour aider l'homme à entrer dans son ministère d'homme. À entrer dans son ministère d'homme. Donc, ne négligeons pas la vie de nos épouses. Ne négligeons pas la vie de nos épouses. Aujourd'hui, il y a un frère qui m'a dit que ma femme a raison. Parce que nous discutons de certaines choses avec ce frère-là. Il m'a dit que ma femme a raison. Donc, ça, c'est vrai. Sur le sujet dont on discutait, hein, et ma femme a raison. En tout cas, si le frère écoute le message, il se reconnaîtra. Donc, voilà. Donc, ne négligeons pas la vie de nos épouses et les femmes aussi ne doivent pas négliger la vie de leur mari. Mais l'Éternel Dieu nous a placés ensemble. Comme la tête n'est pas sans le cou et le cou n'est pas sans la tête, mes frères et sœurs. C'est comme ça entre un mari et son épouse. Donc voilà. Et ce n'est pas pour rien que la Bible a nommé, a mis ce récit ici. Hein, c'est pour que nous puissions apprendre. Vous voyez, apprendre lorsque nous sommes en couple, lorsque nous sommes mari et femme. Vous allez voir que c'est Abigail qui est une femme sensée, qui est père de l'enthousiasme. Mon père est joie, qui va sauver son mari, qui va sauver sa maison. Hein? Nous allons voir. Donc, quand la Bible les oppose comme ça, c'est qu'il va avoir un développement, il va avoir quelque chose qui va se passer. Et la Bible renchérit en nous disant que Abigail est une femme de bon sens. Ouais, par opposition à son mari, qui est décrit comme sot, brute, ruste, insensé. Et encore belle de figure. Yaphet, belle de figure. Voilà, belle de figure. Mais l'homme dur, méchant, voilà. Dans ses actions, ils ont bien précisé, hein, dans ses actions, quelqu'un peut être se présenter sous forme bien comme il faut, calme, mais être méchant et dur dans ses actions. Un proverbe ne nous dit. Un proverbe ne nous dit-il pas qu'il faut se méfier des eaux calmes? Il faut se méfier des eaux calmes. Et ce monsieur, Nabal, descend de Caleb. Oh, vraiment, Caleb a été un témoin fidèle, vous voyez, hein, mes frères et sœurs. Donc, on peut avoir un ancêtre illustre, un ancêtre, un apôtre même, un ancêtre qui a été fidèle dans la maison de Dieu et avoir un descendant, ou bien parmi cette descendance, quelqu'un de mauvais. Il y a un pasteur qui dit, Dieu n'a pas de petits-enfants. Elohim n'a que des enfants. Il n'a pas de petits-enfants. Vous voyez? Donc c'est aux petits-enfants eux-mêmes d'écouter, d'obéir à l'Éternel Dieu. Ce n'est pas automatique. Comme aussi, on ne naît pas né de nouveau. On ne naît pas chrétien ni croyant en Yeshua. C'est vrai que lorsqu'on naît dans une famille dite chrétienne, on a plus de chance puisqu'on est en contact avec la parole de Dieu. On a plus de chance de se convertir que si quelqu'un est né dans une famille animiste ou d'une autre religion, hein, d'une autre religion. D'accord? Mais ça ne va pas de soi. Malgré que Naval soit de la descendance de Caleb, malgré qu'il soit un Calébite, il n'a pas honoré son ancêtre. Il ne possédait pas ce caractère doux, amical, sérieux, rigoureux et cette foi de son célèbre ancêtre. Même les enfants de Samuel s'étaient égarés loin de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, prenons soin de nos enfants, prions pour nos enfants, continuons d'intercéder, d'accord? Et l'Éternel Dieu fera le nécessaire pour les amener donc sur le chemin. Parce que la Bible nous dit que nos enfants sont saints, c'est-à-dire mis à part. Ils ne sont pas moralement purs, parce que beaucoup de gens confondent quand on dit que le peuple de Dieu est saint, ou bien les saints, quand la Bible parle des saints, ça veut dire mis à part, mis à part, mis à part, mis à part pour de bonnes actions. Et c'est sur ce cheminement de mis à part que nous sommes purifiés, puisque la Bible nous dit que de jour en jour, nous ressemblons à l'image du Messie, à l'image du Messie. Donc, voilà. Et David, donc, la Bible nous dit dans le verset 4 que David a appris au désert, dans le désert de Paran, que Nabal, donc, tondait ses brebis. Et lorsqu'on fait la tonte, donc, on nourrit les gens. Il faut nourrir les gens parce que ça dure plusieurs jours. Hein. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Ça dure plusieurs jours. Donc, il y a beaucoup d'ouvriers quand même. C'est 1000 brebis. 1000 brebis. Donc, je pense que ça se passait donc aux sorties de l'hiver, au printemps ou bien en été. Parce que les bergers pouvaient dormir donc en rase campagne. En rase campagne. Donc, David, donc, comme il était dans le désert de Paran, dans le désert, il n'y a pas de nourriture, hein, il n'y a pas trop de nourriture. Il n'y a pas trop d'eau, mais bon, s'il est allé là-bas pour échapper à Shaoul, c'est que bon, il se disait, bon, il y a la mer Rouge hein, qui n'est pas loin, mais c'est une mer salée aussi. Hein. Il doit avoir des puits, c'est sûr. Donc, David a envoyé donc des émissaires, 10 jeunes hommes, la Bible nous le précise, 10. Hein. 10, c'est comme la première lettre du nom de l'Éternel Dieu. 10. 10 jeunes gens. Et David était content, avait de l'enthousiasme et avait même missionné ces jeunes gens pour qu'ils saluent Nabal en son nom, puisque le nom de David était connu donc en Israël avec tous les exploits qu'il avait faits. Et voilà, ils lui ont donné donc la salutation, donc la salutation, la paix, ils l'ont salué. Et David donc a présenté le contexte à Nabal en lui montrant que lorsque c'est vrai, parce que dans le désert, il y a des brigands, il y a des gens qui pouvaient voler. Il y a aussi les ennemis, il y a aussi beaucoup de peuples, il y a les Philistins, les Amalécites et autres hein, qui sont là et qui ne guettent qu'une occasion favorable pour fondre sur les biens des gens et razzier, parce que pendant ce temps, il y a beaucoup de razzias hein, où les groupes venaient, Amalécites et autres Philistins, razziaient donc Israël. Mais comme David était là, ni les voleurs, ni les troupes philistines et amalécites n'ont pas pu s'approcher donc des bergers ni des biens de Nabal. Donc les biens de Nabal ont été sauvegardés grâce à la présence de David et de ses 600 hommes. Donc David espérait un geste de reconnaissance de la part de Nabal, d'autant plus que dans le désert, comme je l'avais dit, le désert de Paran, c'est un de Paran, donc c'est un désert qui est assez grand, un désert donc qui est en bas, près de la mer Rouge. Il n'y avait pas grand-chose à manger. Et que pendant ce temps-là, beaucoup de gens vivaient de pillage, hein, de pillage et de... Voilà. Et David était venu avec un message de paix et a demandé un peu de vivres pour nourrir sa troupe. Pour nourrir sa troupe. D'accord? Donc David demandait. Et effectivement, aussi dans beaucoup d'endroits aujourd'hui, les frères et sœurs sont dans des besoins, dans la misère. Et vous savez, dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui se sont enrichies, mais beaucoup de pasteurs oublient. Ça, j'en ai parlé, je ne sais pas quand là, mais j'en ai parlé. Beaucoup de pasteurs, je réfléchissais à ça, beaucoup de pasteurs oublient, ou de responsables d'assemblées ou de dénominations oublient que parce que les frères et les sœurs sont là pour donner. Et que c'est pour cela que lui, le pasteur, il vit. Il vit, il mange, que ses enfants vont à l'école, ainsi de suite, puisqu'il est censé faire donc son ministère à plein temps. Ne travaillant pas, voilà, il vit, mais également c'est à cause c'est grâce aux cotisations que l'assemblée, que la dénomination s'est enrichie. Beaucoup de responsables oublient ça, que même les constructions, les travaux qui ont été réalisés, les biens de l'assemblée n'appartiennent pas au pasteur, mais appartiennent donc à tous les frères et sœurs qui ont cotisé pour que l'œuvre existe. C'est ça, nous sommes dans une sorte de dépendance les uns aux autres. Nous sommes les membres d'un même corps, voyez. Mais les gens sont chassés, sont excommuniés, manu militari, d'une manière brutale et violente. Les veuves sont des fois négligées. Négligées, je discutais avec un frère. Il est difficile quand, des fois, si vous n'occupez pas dans certaines assemblées une certaine place, lorsque vous êtes dans la misère, dans la détresse, on ne s'occupera pas de vous. Hein? Personne ne s'occupera de vous. Vous comprenez? C'est ce qui se passe des fois. Beaucoup de responsables oublient que c'est parce que les frères et sœurs cotisent, donnent de l'argent, font des dons, que l'œuvre marche. Là, ils doivent le savoir et comprendre que les biens qu'ils ont accumulés ne leur appartiennent pas. Voilà, c'est ça. Et que les frères ont donné généreusement à l'Éternel Dieu, à l'œuvre de Dieu, ils ne donnaient pas au pasteur. Et que lui ne doit pas non plus profiter de sa position pour s'enrichir ou bien pour vivre dans l'opulence. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein. Toutes les dominations veulent s'enrichir, veulent construire des temples, veulent construire ça, un temple plus beau, plus généreux, avec des chaises qui brillent. Je ne refuse pas, hein. Si c'est pour l'Éternel Dieu, oui, l'Éternel Dieu mérite. Mais la Bible nous dit que Elohim n'habite pas dans les constructions d'hommes. C'est de l'argent jeté par la fenêtre. Combien de Bibles, combien d'actions de campagne d'évangélisation qu'on pourrait faire avec tout l'argent que les dénominations ont cumulé. Beaucoup de dénominations pentecôtistes et évangéliques dénoncent Rome, dénoncent l'opulence de Rome, mais elles suivent le chemin. Ces dénominations, s'ils suivent le chemin, ils accumulent de l'argent, des richesses, des biens matériels, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Pendant ce temps, les gens meurent de faim. Pendant ce temps, les gens sont dans leurs besoins. Je ne leur dis pas d'aller s'occuper des choses hors de leur pays, mais de regarder autour d'eux. De regarder d'abord autour d'eux. D'accord? Qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, ainsi de suite, d'apporter du secours à ces gens-là. La Bible nous demande d'abord de nous occuper de nos frères et sœurs. Les frères et sœurs, de nous occuper de nos frères et sœurs, de chercher leur bien, leur bien-être d'abord. D'accord? Voilà. Et qu'avec nos richesses, nous devons bénir les autres avec. Si l'Éternel Dieu t'a donné des richesses, des biens de ce monde, ce n'est pas que en tant que croyant en Yeshua, ce n'est pas que tu les accumules, que tu les gardes et que tu en manges. Mais c'est aussi que tu puisses aussi distribuer, que tu puisses aussi venir en aide à tes frères et sœurs qui sont dans l'indigence. Et c'est ce que les premiers croyants faisaient, puisqu'il y avait des diacres qui servaient à table. Mais aujourd'hui, certains pasteurs se prennent pour des ministres. Ils disent qu'ils sont des ministres de Dieu. Ils ne savent pas que le mot ministre veut dire serviteur. Mais oui, qu'eux aussi doivent vivre comme des ministres, comme les ministres du gouvernement. Vous voyez sur quoi ils prennent l'exemple des ministres des gouvernements. Ouais, voilà, c'est ça. Et ils sont devenus ventripotents. Certains pasteurs sont devenus ventripotents aujourd'hui. Ventripotents, alors qu'ils étaient tout gringalés avant. Je ne dis pas, hein, parce que la Bible, Paul l'apôtre même nous le dit, que l'ouvrier mérite son salaire. Mais dans certaines assemblées, on ne sait même pas combien gagne le pasteur, combien il y a sur les comptes, ainsi de suite. Normalement, mais oui, bon, peut-être que vous allez me dire que ceux qui sont en Afrique, peut-être vont dire que je parle à la manière européenne. On doit faire les comptes chaque année à l'assemblée. Normalement, aux frères et sœurs, pour que les choses soient claires et non opaques, tout compte fait. Dieu voit, hein. L'Éternel Dieu voit comment on dépense son argent. En tout cas, on dépense l'argent en son nom. Comment on dépense l'argent? L'Éternel Dieu voit. Il voit toutes choses. La Bible nous dit qu'il amènera toutes choses en jugement, soit devant le tribunal du Messie, voilà, que nous tous nous passerons. Et chacun recevra sa récompense pour ce qu'il aura fait de bien ou de mauvais. Les émissaires donc de David arrivèrent à bon port et répétèrent donc au bien à Nabal la commission de David, toutes les paroles de David. Et puis un long silence. Et Nabal, qui n'a pas sa langue dans sa poche, vraiment, a été vraiment odieux. Voilà, il mérite son nom. Il dit qu'il est méchant dans ses actions. Il est insensé dans ses actions. Il est dur dans ses actions. Il répète, vraiment, c'est que du mépris. Qui est David? Qui est le fils de Jessé. Hein? Le fils de Jessé ou d'Isaïe. Qui est David? Vraiment, quel mépris. Vous voyez? Des fois, des frères et sœurs méprisent les autres. On se croit tout arrivé. On est le grand pasteur, le grand apôtre, le grand prophète. Maintenant, pour voir certains pasteurs, il faut une audience. Des fois, mais il faut payer pour voir, pour avoir un conseil, ou bien pour que le pasteur prie pour toi, ou bien que tu te donnes une révélation. Je vois, il y a un prophète, 200, un entretien de 5 minutes, une prophétie de 5 minutes, 200 euros, il est venu. Si tu veux plus, 400 ou bien plus, tu augmentes le chiffre, plus tu passeras du temps avec lui. Oh, mes frères, mes sœurs, c'est l'Esprit qui donne la révélation, non pas un prophète. Ce prophète-là n'est rien devant l'Éternel Dieu. La Bible nous dit, si nous avons reçu, donnons gratuitement. Pourquoi se glorifier de ce qu'on a reçu? Ce que nous avons, les dons et les ministères ne sont pas nos propriétés là. Ce sont les ministères, les dons du Seigneur Yeshua. Parce que lui, il a reçu l'Esprit sans mesure. C'est lui qui nous les donne, qui nous les dispatche après. Et toi, tu prends ça, toi, tu prends ça, toi, tu prends ça. Il y a même des dons, ou bien qu'on appelle des opérations. Mais beaucoup de gens ne disent pas, ah, j'ai une opération. Hein. Alors, le Seigneur m'a fait faire une opération aujourd'hui. Même le don de la présidence, est-ce qu'on le dit? Non, personne ne veut ça. Tout le monde veut être apôtre. Maintenant, c'est ça. Hein. Tout le monde veut apôtre, prophète, docteur. Et on met les titres maintenant, c'est les titres. On dit révérend. À chaque mot qu'on doit dire, on dit révérend pasteur, révérend pasteur. Oh, mes frères, la révérence n'est due qu'à Elohim seul. Soyons, ne vous voyez pas d'acception de personne, mes frères et sœurs. Disons les choses telles qu'elles sont. Hein, mes frères et sœurs, tout compte fait, lorsque nous serons devant le tribunal de Christ, la vérité éclatera. Tu peux te faire appeler ici révérend. Tu y en a même qui dit Melchizedek, apôtre, bishop. Vraiment, ils alignent tellement les titres, donc on se demande si ces gens-là comprennent les choses, quoi. Vous voyez? On n'ordonne pas un prophète. On n'ordonne pas un apôtre. On n'ordonne pas un docteur, un enseignant. Il n'y a pas d'ordination. Ça, c'est le catholicisme, ça. Et beaucoup de soi-disant apôtres ont été ordonnés. Aïe, c'est pas possible. C'est pas biblique, ça. C'est pas biblique du tout, du tout, du tout, du tout. C'est dans l'action de la personne, dans la pratique de ces dons, la manière dont cette personne vit l'Église, vit dans l'Église, qu'on se dit, ah, lui là, il a un don d'enseignant. Lui là, il a un ministère d'apôtre. Lui là, il a un ministère de prophète. Lui là, il a un ministère. Si quelqu'un fait une œuvre ou bien fonde une dénomination, quelque temps après, il devient apôtre avec une grosse chaîne autour du cou ou des bagues. Je ne sais même pas à quoi ça sert, ces bagues-là. Je ne sais pas. Hein. Donc, Nabal ici a été vraiment méchant, méprisant envers David. Il a insulté. C'est des insultes, ça. Il y a beaucoup de serviteurs, comme il dit, qui quittent leur maître. Je vais continuer dans la version hébraïque encore. Voilà, il dit. Nabal répondit au serviteur de David. Qui est David? Qui est le fils de Jessé? Il y a beaucoup de serviteurs aujourd'hui qui s'émancipent de chez leur maître. Vous voyez, quel mépris. En parlant de Shaul, que David est devenu un fugitif, c'était enfui de chez son maître Shaul. Et je prendrai mon pain, mon eau, mes bêtes que j'ai tuées pour mes tondeurs, et je les donnerai à des hommes venus. Je ne sais d'où. Waouh! Alors qu'il connaissait bien David. Il a déjà entendu parler de lui. Hein? Vraiment. Il a été vraiment méchant. Bon, je vais quand même aller jusqu'au verset 12, mes frères. Au verset 13, plutôt. Je vais aller au verset 13. Vous voyez? Ses serviteurs ont eu la douche froide. Même si tu veux réprimander quelqu'un, il faut le faire avec douceur. C'est ce que la Bible nous dit. De redresser celui qui a tort avec douceur. Vous voyez, la communication non verbale ne devait pas être enseignée dans des écoles d'affirmation de soi ou de communication non verbale, mais nous trouvons ça dans la Bible. La Bible nous dit de redresser avec douceur, avec douceur, hein? Avec douceur, la Bible nous dit, de redresser les autres avec douceur. Voilà, 2 Timothée 2, le verset 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Hein? D'accord? D'accord, voilà, c'est ce que nous devons faire. D'accord, dans un esprit de douceur. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Bon, apparemment, Nabal n'est pas ni l'un ni l'autre. qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse. Et la Bible nous dit qu'il faut que nous soyons doux, ou sobres plutôt, parce que l'Éternel Jésus revient. Galates 6, 1. Frères, si un homme vient d'être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels ici, Nabal n'a pas montré, n'a montré aucun caractère de quelqu'un qui est sanctifié, de quelqu'un qui craint Dieu, rien du tout. Il a été brut, brutal. Vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. La Bible nous dit, on te mesurera avec la mesure dont tu t'es servi. Et on va te mesurer, on te donnera même plus que ça. Si tu te comportes mal, ou bien 2 Timothée 4, 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Alors, il y a des prédications, c'est des marteaux, on vous tape sur, ou bien le pasteur vient régler ses comptes avec les membres de l'assemblée, ou bien avec le diacre, ou bien avec un autre pasteur vient régler ses comptes. C'est comme ce prophète, chaque fois qu'il fait quelque chose de mauvais, il trouve toujours un verset pour justifier son acte. Je ne dis pas plus. Donc, les serviteurs de David ont dit que les serviteurs de David rebroussèrent chemin et au retour lui rapportaient toutes ces paroles. Alors là, ça a fait dégoupiller David. Ça l'a fait dégoupiller. La colère peut nous pousser à faire de mauvaises choses, à prendre de mauvaises décisions. La colère, c'est pourquoi la Bible nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il n'y a pas de sainte colère, mes frères et sœurs. Il n'y en a pas de sainte colère. Et ce qu'on traduit par la colère de Dieu, parce que Dieu n'est pas un homme, nous dit la parole. Ce sont ses jugements. Il n'y a pas de colère chez Dieu. Il n'y a pas de colère, parce que la colère est un péché. Il n'y a pas de sainte colère. Il n'y a pas de sainte colère. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de sainte colère. Nous devons faire attention, lorsque nous nous mettons en colère, de ne pas prendre de mauvaises décisions, de ne pas agir mal. Parce que la Bible, Yeshua même nous dit, celui qui se met en colère contre son frère est comme un meurtrier. La colère peut nous amener à faire de mauvaises choses, à tuer, à agir mal. D'accord? Vous voyez, la Bible nous dit dans Proverbes 15, le verset 18, « Mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Hein? » Apaise les disputes. « L'insensé laisse voir à l'instant sa colère. » C'est ça. « Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. » C'est Proverbes 14, le verset 17. L'homme plein de malice attire la haine. D'accord? Voilà. L'homme qui est sage est lent à la colère. Et met sa gloire à oublier les offenses. Ici, David a été offensé. Et sur le qui-vive, David dit que chacun de vous, qu'il a préparé sa troupe immédiatement. On a dit, ok, prenez vos épées. On va aller lui régler son compte. Voyez, 400 hommes se sont mis en marche pour aller ravager le camp de Nabal. Voyez, régler, ils vont tous les massacrer et puis ils vont se servir. Voilà, ils vont se servir. Vous voyez que ni Nabal ni David là, bon, David a failli agir comme lui. La Bible nous dit quelque chose. Ouais, c'est un verset qui me fait dire réponds à l'insensé. Réponds à l'insensé selon ses paroles. Réponds à l'insensé. Et il nous dit encore de ne pas répondre à l'insensé selon ses paroles. Voyez, donc, il faut que notre réaction soit mesurée. Voilà, on nous dit, Proverbe 26, le verset 4. D'abord, on nous dit, ne réponds pas l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Et c'est ce que David a failli faire. Il a failli agir comme Nabal, sot, insensé, avec la colère. Le verset, le Proverbe 26, le verset, ne réponds pas l'insensé selon sa folie. Ouais, j'étais un homme colérique avant, en tout cas. Lorsque j'étais adolescent, même lorsque je n'étais pas encore croyant, lorsque je n'étais pas encore né de nouveau, j'étais un homme colérique. Même au début de ma vie avec Jésus, j'étais quand même un homme colérique. Je m'enflammais très très vite. Je dégoupillais très très vite. D'ailleurs, avant, on m'appelait assassin, en tout cas. À l'école primaire, au collège, vous voyez. Mais l'Éternel Dieu a fait son travail sur moi ainsi de suite. Et je continue d'intercéder pour que l'Éternel me donne la grâce de ne pas retourner à cet état-là. D'accord? Ne réponds pas à l'insensé. Nous avons tendance, quand quelqu'un nous pique ou bien nous dit quelque chose de méchant, nous voulons lui répondre immédiatement. Vous voyez, ça m'est arrivé encore des fois quand quelqu'un m'attaque d'une certaine façon, j'ai tendance, mais après, bon, on regrette, on demande pardon au Seigneur. Voilà. Donc, que le Seigneur nous aide tous à ne pas dégoupiller, à ne pas nous mettre en colère quand quelqu'un nous manque de respect, nous dit quelque chose, puisque la Bible nous dit de mourir à nous-mêmes. Un cadavre, ça ne réagit pas, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? De mourir à nous-mêmes. Nous devons tous mettre cela, donc, devant l'Éternel Dieu pour que nous mourons à nous-mêmes. Ainsi, nous ne réagirons plus lorsqu'on s'attaque à nous. Parce que celui qui nous attaque s'attaque directement à Yeshua. Et c'est ce que Yeshua a répondu à Shaul sur la route de Damas. Pourquoi me persécutes-tu, mon frère, ma soeur? Si quelqu'un te persécute, quelqu'un t'insulte, sache que cette personne porte atteinte directement à Yeshua. Ou bien celui qui méprise son prochain, nous dit encore un proverbe, je ne sais pas où, pêche contre l'Éternel qu'il a créé, pêche contre Elohim qu'il a créé. Et le proverbe 26. Le Proverbe 26, encore le verset 5 nous dit, réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage, mais avec douceur, mon frère, ma soeur, afin de l'amener. Parce que notre but, c'est d'amener les gens au salut, et non pas de les éloigner du salut, mon frère, mes soeurs. C'est pourquoi nous ne devons pas répondre à l'insensé selon sa folie. Pour ne pas lui ressembler. Nous devons lui répondre avec sagesse et intelligence et douceur, afin qu'il ne se prenne pas comme ça. C'est pourquoi la Bible nous dit, je pense dans 1 Pierre, de répondre avec douceur à nos détracteurs, afin que lorsque le Seigneur les visitera, ils puissent comprendre ce que nous l'avons dit, nous avons dit. Mes frères, mes sœurs. Donc ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Proverbe 26, 4 et le Proverbe 26, 5, répond à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Voilà, David a failli ressembler donc à Nabal, parce qu'il a demandé à sa troupe de se mettre sur la route, de prendre le chemin de la guerre et d'aller liquider Nabal. Toute sa maison, de dévaster sa maison, de piller son camp. Ainsi, le problème sera réglé parce que Nabal a été très dur, a été méchant et rude vis-à-vis de Daniel. Il a été ingrat. Il n'a pas été reconnaissant, mon frère, ma sœur. Et aujourd'hui, lorsque nous faisons du bien à quelqu'un, nous ne nous attendons pas à être récompensés. Notre Père est dans les cieux, il nous voit, il nous récompensera. Amen. C'est ça que nous devons voir. Ne nous attendons pas à ce que les gens nous récompensent pour un bien que nous aurons fait. Mais regardons plutôt à Yeshua. Donnons. La Bible ne dit-elle pas qu'il est plus heureux de donner que de recevoir, mes frères et sœurs? Parce que la main de celui qui reçoit sera toujours en bas. En bas de la main de celui qui donne. Donc donnons, 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 selon notre possibilité. Parce que la Bible ne nous dit pas aussi de nous dépouiller, de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Mais il faut qu'il y ait un équilibre. Donnons, vous avez vu que donnons de notre superflu. Donnons, 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 de bon cœur. On ne doit pas donner en serrant les dents. On doit donner de bon cœur, mes frères et mes sœurs. Nous devons donner de bon cœur. D'accord? Voilà, c'est ce que j'ai à commenter aujourd'hui. Je pourrais poursuivre encore, hein, mais mes frères et sœurs, mais nous devons arrêter là, sinon le message risque d'être trop long. Que le Tenant Dieu nous bénisse et nous garde. Amen et amen. À la prochaine.